RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Voilà, l'arrivée dans 8 km, la grande bagarre est commencée, mais tout d'abord nous allons devant l'hôtel des Bleus. Arnaud Souk nous attend, évidemment, les Bleus qui vont bientôt partir pour le Stade de France. Arnaud.
Allez, dans moins de 2 heures maintenant, je suis donc devant l'hôtel des Bleus à Paris, Bercy, dans le 12e arrondissement donc de Paris. C'est l'hôtel Pullman. Les Bleus qui ont passé la journée tranquille, hein, comme il est de tradition depuis le début de cet Euro. Là, en ce moment, c'est séance vidéo. On va une petite Didier Deschamps va annoncer les 11 qui seront ce soir sur la ligne de départ, j'ai envie de dire, plutôt dans le 11 titulaire. Il y aura très certainement Samuel Umtiti. 18h50, c'est l'heure du départ. Ici, il y aura un quart d'heure pour aller jusqu'au Stade de France.
Merci Arnaud. À tout à l'heure, évidemment, à partir de 18h, l'intégrale Euro 2016 et à 21h, le coup d'envoi du match. 7 km 400 de l'arrivée. Le suspense est total entre les hommes de tête, enfin plus exactement l'homme de tête, Fred, puisqu'il n'y a plus qu'un seul homme devant. Les autres ont été lâchés il y a quelques instants.
Oui, à l'approche de la côte de la Glacerie, à 4 km du pied de cette ultime difficulté, le juge de paix du jour, un homme seul en tête. Il a 24 ans, il est belge et porte le maillot de l'équipe américaine Trek. Il s'appelle Jasper Stuyven, vainqueur d'une étape du Tour d'Espagne l'an passé, vainqueur de la classique belge Kurn-Bruxelles-Kurn en début d'année, une pépite du cyclisme belge qui vient de déposer ses deux compagnons d'échappée, l'allemand Paul Voss de l'équipe Bora et le Norvégien Brain. Un seul homme en tête avec 1 minute 30 d'avance à 6 km 700 de l'arrivée. À l'avant du peloton, les BMC en mettent Van Avermaet. Les Sky sont particulièrement vigilants. Et puis on aperçoit également les AG2R La Mondiale, peut-être pour Alexis Villermoz. On revient fort. Est-ce que Stuyven va résister? Cet homme est très talentueux, assurément.
Voilà, très talentueux, mais le peloton est enfin lancé à ses trousses. Cyril Guimard, le suspect est complet ou est-ce que, à ton avis, c'est déjà joué?
Ah, le suspense reste complet parce que l'homme échappé est un véritable grand champion. N'oublions pas qu'il a aussi été champion du monde junior et vice-champion du monde espoir. Donc voilà, c'était Paris-Roubaix, non pas le championnat du monde. Donc c'est un homme qui est spécialiste dans ses finales. Il faudra quand même passer les 3 derniers kilomètres. Il faudra qu'il arrive donc au pied de cette ascension avec au minimum 1 minute 10, 1 minute 15 pour l'emporter. Mais derrière, la charge est lancée.
Voilà, Stuyven en tous les cas qui a retrouvé un second souffle, évidemment, Jérôme, depuis qu'il est tout seul, depuis qu'il a lâché ses anciens compagnons d'échappée. Là, il sent évidemment le bouquet, la victoire finale juste devant lui. Hein.
Oui, on l'avait vu, c'était lui l'homme le plus fort de cette échappée. Il faisait mal à ses compagnons d'échappée. Là, il a décidé de s'en aller au meilleur des moments dans la côte qui précède cette de la Glacerie, dans la côte d'Octeville. Maintenant, comme le dit Cyril, il est lancé, il n'a plus qu'un objectif, c'est d'arriver au pied avec au moins 1 minute 15, 1 minute 20 d'avance. Mais attention, la côte de la Glacerie est très difficile, on peut perdre beaucoup de temps quand on est seul. Rappelons que Stuyven est un grand champion, mais il est très jeune, il est échappé depuis 170 km et ça risque de peser lourd dans les jambes dans la dernière montée vers la Glacerie qui n'est vraiment pas simple.
Voilà, évidemment, 170 km échappés. On fait beaucoup, beaucoup plus d'efforts que lorsqu'on est tranquillement installé dans le peloton. Enfin, même si on en fait évidemment dans le peloton aussi.
Bien hein. Sûr, bien sûr. Il a laissé beaucoup de plumes. Aujourd'hui, l'étape était très difficile, escarpée, montée, descente, du vent, de la pluie. C'est fatigant. C'est un jeune coureur, alors certes très talentueux. Il va en falloir du talent pour Jasper Stuyven pour réussir à aller jusqu'en haut.
Voilà, 4 km 600 de l'arrivée.
Attention,
alors que
crevaison de Richie Porte. Crevaison de Richie Porte à 5 km de l'arrivée. Le leader australien de la formation BMC est en train d'être dépanné par la voiture neutre. Un dépannage qui prend beaucoup
très,
de temps.
Très long, très, très long.
Après la chute d'Albert Roberto Contador, qui n'a occasionné aucun retard au classement général hier, eh bien Richie Porte est en train de perdre gros dans le final de cette deuxième étape. On en parlait hier, ce Tour 2016 est vraisemblablement en train de virer au Tour par élimination avec toutes les difficultés. On est à 4 km de l'arrivée, un homme seul en tête, solide gabarit belge de l'équipe Trek. Jasper Stuyven compte toujours 1 minute 25 d'avance sur le peloton, lancé à ses trousses.
Il ne mollit pas Stuyven, Cyril, là, hein. Et c'est vrai que la route est assez étroite, donc pour le peloton s'organiser derrière, c'est un peu plus compliqué.
Oui, on le savait que ça serait compliqué pour le peloton et ça le sera aussi d'ailleurs pour certains leaders. On vient de voir Richie Porte victime d'une crevaison, mais le peloton va être très très étiré au pied de cette ascension. Il pourrait y avoir énormément de cassures et on peut craindre également pour Contador, victime donc une chute hier. Mais le peloton va avoir du mal quand même à bien s'organiser derrière l'homme de tête. On a parlé tout à l'heure d'une 10, une 15 au pied de l'ascension pour l'homme de tête. Eh bien, on est sur ces bases-là actuellement.
Oui, puisqu'il y a encore 1 minute 19 d'avance à 3 km 500. Il est dans les rues de Cherbourg, Steuven, pour l'instant sur le plat, mais ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder à monter, Fred, dans quelques instants pour Steuven. Le peloton toujours en file indienne derrière.
Oui, le pied de la côte de la Glacerie à 300 mètres devant Jasper Steuven, le Belge en tête de cette deuxième étape. Attention, cette côte, elle est longue de 2 km. Elle présente un passage à 14%. Il est grand, il est lourd, Jasper Steuven, et il aura bien du mal à faire jeu égal avec les puncheurs, les poids légers que sont Joaquin Rodriguez, Alejandro Valverde, Julien Alaphilippe ou même un Peter Sagan qui va passer à l'injection cette côte classée en troisième catégorie. 3 km de l'arrivée pour Jasper Steuven, 1 minute 20 d'avance sur un peloton emmené toujours par les BMC devant Navarmart. Notons que le leader de cette équipe BMC, Richie Porte, n'est toujours pas rentré à l'arrière du peloton. Il a perdu gros dans une crevaison à 5 km de l'arrivée.
L'avance qui décroît, 1 minute 15 désormais, 1 minute 14 même pour l'homme de tête à 2 km 900 de l'arrivée. Steuven qui a attaqué la côte de la Glacerie alors que le peloton est en file indienne avec les grands favoris pour la victoire d'étape qui commence à se mettre aux avant-postes, Jérôme.
Oui, on a vu là l'équipe Lotto Soudal faire un dernier gros relais pour Tony Galopin. On a aussi l'équipe Movistar qui pointe ce bout de son nez à l'avant. On a l'équipe BMC qui est entre deux chaises puisqu'on a le leader Richie Porte derrière, mais on a Greg Van Avermaet pour s'imposer aujourd'hui. Ça va être difficile pour Jasper Steuven d'aller jusqu'au bout.
Cyril, impression visuelle sur le coup de pédale de Steuven.
Oh, c'est très bien, c'est très beau, surtout après l'effort qu'il a fait, après cette longue échappée. Il reste bien compact, son coup de pédale est toujours efficace. Alors bien sûr, moins efficace que ceux du peloton, mais par rapport à l'effort qu'il a fait, c'est quand même magnifique ce qu'il réalise actuellement.
Voilà, 1 minute 04 d'avance. Évidemment, cette avance continue de décroître alors que tous les favoris sont en train de se positionner, Fred, dans le début de l'ascension de la côte de la Glacerie.
1 minute d'avance pour Jasper Steuven à 2 km 500 de l'arrivée. Les Tinkoff sont là pour Alberto Contador, mais surtout pour le champion du monde Peter Sagan. On aperçoit également les Orica pour le sprinter australien Michael Matthews. Attention, accélération d'un coureur de la formation Cannondale. Pour l'instant, tout ça est bien en rythme, il n'y a pas d'attaque, on accélère progressivement. Le cap, la barre des 1 minute vient d'être franchie. Jasper Steuven qui compte 55 secondes d'avance à un peu plus de 2 km de l'arrivée. On aperçoit Dan Martin en 4e position de ce peloton, également présent Joaquin Rodriguez, Greg Van Avermaet, apparemment le champion de Norvège Boasenhagen est également là, Alejandro Valverde bien placé. Jasper Steuven fait lui de la résistance à 2 km de l'arrivée, 45 secondes d'avance
descend,
pour lui.
Ça descend, ça doit être terrible, hein, Jérôme, pas... quand on est comme ça, seul échappé depuis 170 km et de voir les hommes du peloton revenir à vitesse grand V. Hein.
Oui, exactement, mais ça va être compliqué, on le dit depuis le début, cette côte de la Glacerie est en deux parties. Jasper Steuven est actuellement dans la partie la plus facile de cette côte, on va ensuite tourner à gauche à 1 km du sommet où là on va affronter des pentes à 14%, et je pense que ces 36 secondes ne seront pas suffisantes pour Jasper Steuven pour aller au sommet, alors que Tom Yelt Slakter vient d'attaquer derrière. Attention, ça bouge, et là ce sont
Cavendish
des potentiels vainqueurs.
Exactement, Cyril, le maillot jaune est lâché, Cavendish qui va perdre son maillot jaune tout à l'heure, hein, Cyril.
Oui, c'est fini pour Cavendish, mais ça n'est pas encore fini pour l'homme de tête.
L'homme de tête qui compte encore 32 secondes d'avance, il résiste Steuven, Fred.
Ouais, ce sera court, on a passé le passage le plus difficile à 14%, il est en train d'en sortir, Jasper Steuven. Derrière, on aperçoit effectivement le Hollandais Slakter, coureur de l'équipe américaine Cannondale, tenter de fausser compagnie à l'avant-garde du peloton. Il y arrive, mais il est pris en charge par les coéquipiers de Peter Sagan, le champion du monde. Les maillots jaunes fluo de la Tinkoff à l'avant. Ça y est, on a avalé Tom Yelt Slakter. C'est Roman Kreuziger, le champion tchèque, qui emmène dans sa roue le champion du monde Peter Sagan. Troisième, Greg Van Avermaet. On aperçoit Nairo Quintana en quatrième position. L'écart qui se stabilise aux alentours de 50 secondes. Est-ce que
non, c'est par rapport à Cavendish.
Mauvaise information. 25 secondes seulement. 25 secondes pour Jasper Steuven qui commence à pencher la tête vers la droite, qui grimace et qui va voir revenir dans sa roue. Derrière lui, il va sentir le souffle de l'avant-garde du peloton.
L'avant-garde du peloton emmené par Peter Sagan qui est en deuxième position dans ce peloton. Peter Sagan, on se demandait s'il pourrait franchir cette côte. A priori, Cyril, il est dans le coup, Peter Sagan, et ensuite évidemment ce sera l'un des sprinteurs les plus rapides des grimpeurs grimpeur en tous les cas. C'est le c'est plus rapide des grimpeurs.
C'est un spécialiste de ce genre d'arrivée. Il a d'ailleurs réalisé cet exploit déjà dans ses premiers Tours de France, dans les arrivées en côte. Sagan, c'est l'homme sur lequel tout le monde avait les yeux rivés. Mais la course n'est pas finie. On a vu que tous les noms que l'on a prononcés, eh bien, sont encore dans les 10 ou 15 premiers. Rien n'est encore fait. Et on voit par exemple un Dan Martin qui est relativement à l'aise.
Et Stuyven va être repris dans quelques instants. C'est terrible, Fred. C'est terrible pour Stuyven.
Jesper Stuyven qui passe en ce moment même sous la flamme rouge du dernier kilomètre.
La flamme rouge.
La flamme rouge et Stuyven qui voit derrière lui revenir les bolides du peloton à 1 km de l'arrivée après 170 km échappés. Il va voir s'échapper la victoire d'étape.
180 km d'échappée même pour Jesper Stuyven qui continue d'ouvrir la route les mains en bas. La grimace est apparente mais à 2 secondes seulement, à une dizaine de mètres derrière lui dans ce replat, cette descente en direction de l'ultime rampe de la côte de la Glacerie, longue de 600 mètres. Et bien c'est bientôt terminé pour Jesper Stuyven. Derrière lui, le champion de République tchèque Roman Kreuziger emmène dans sa roue Peter Sagan en troisième position, Greg Van Avermaet, Nairo Quintana est là, mais surtout Alejandro Valverde en quatrième position, Julian Alaphilippe en cinquième position. On aperçoit Christopher Froome également dans le top 7, Dan Martin, le coéquipier d'Alaphilippe,
est
désormais à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Roman Kreuziger continue d'emmener le champion du monde Peter Sagan. Joaquin Rodriguez est là également, c'est peut-être lui qui va lancer sur la gauche de la route. Joaquin Rodriguez, le petit format de l'équipe Katusha. Peter Sagan se retourne, on est à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Alaphilippe est dans la route du champion du monde, Michael Matthews troisième. Peter Sagan est en train de regarder ce que fait Alaphilippe. Alaphilippe qui lance à 150 mètres de la ligne d'arrivée. Julien Alaphilippe débordé, apparemment pas Michael Matthews, sinon il est plus fort, mais Peter Sagan avait gardé une cartouche. Peter Sagan qui va tenter de le déborder et qui s'impose, le champion du monde qui devance Julien Alaphilippe et Alejandro Valverde. Voilà un trio royal, mais Peter Sagan a fait ce qu'il a voulu dans cette montée finale. Peter Sagan qui à 200 mètres s'est retourné comme à l'entraînement, qui a incité Julien Alaphilippe à passer, qui s'est calé dans la roue du Français. Il a débordé à 50 mètres de la ligne.
Et attention parce que derrière il y a des dégâts, notamment Alberto Contador qui, on vous le rappelle, a chuté hier, a de nouveau chuté aujourd'hui. Il est lâché, il va arriver avec un retard conséquent pour Alberto Contador. Décidément, ce Tour de France débute très très mal pour le grand champion espagnol, Fred.
Oui, on va faire le décompte effectivement. Alberto Contador qui aura vécu une journée galère, évidemment. On vous le disait hier, il n'y aura pas de problème, il est tombé et quand on est chaud on peut terminer une étape, mais le lendemain les douleurs sont beaucoup plus vivaces. 47 secondes de retard pour Alberto Contador sur Peter Sagan, sur Alaphilippe, sur Valverde. Le compte est bon, en tout cas le débours est assez lourd. Le maillot jaune Marc Cavendish est en train d'en terminer tranquillement. Quelle sensation ici et quelle démonstration de force du champion du monde qui prend une nouvelle dimension avec ce maillot arc-en-ciel sur les épaules. Il réalise des numéros chaque mois. Le mois dernier, c'était sur le Tour de Suisse. Un peu plus tôt dans la saison, c'était sur le Tour des Flandres. Après son titre mondial à Richmond, Peter Sagan, qui avait terminé à 5 reprises deuxième sur des étapes.
Richie Porte également largué, complètement largué, Fred.
Et oui, sur crevaison, Richie Porte, l'Australien de l'équipe BMC, qui s'est lancé dans une course-poursuite dans les 5 derniers kilomètres de l'étape, franchit la ligne avec 1 minute 45 de retard. Et voilà, il fait nom de la tête en passant, dépité le coureur australien de la BMC, Richie Porte, qui pour sa première année comme leader unique au sein, allez, à la tête d'une équipe, eh bien vit un début de Tour de France particulièrement compliqué. Victoire de Peter Sagan donc devant le Français Julien Alaphilippe et l'Espagnol Alejandro Valverde.
Évidemment, on est un petit peu déçu pour Julien Alaphilippe. Jérôme qui a tout donné dans cette côte. Évidemment, il est battu par plus fort que lui, parce que Peter Sagan, c'est le patron, c'est le roi du peloton, maillot arc-en-ciel sur les épaules. Lui qui avait été bien malchanceux sur les routes du Tour l'an dernier, mais depuis la malchance l'a abandonné, hein.
Oui, tout à fait, il a été battu par plus fort que lui, il a tout simplement été battu par le meilleur coureur du monde actuellement, sur ce genre d'arrivée, sur ce genre de course. Sagan a été très fort, mais en plus très très intelligent. Il a laissé Julien Alaphilippe lancer le sprint, lui faisant croire qu'il était un peu à bout. Il s'est recalé dans la roue et à 50 mètres de la ligne, il l'a tout simplement dépassé avec assez d'aisance. Il s'est imposé en costaud, Fred. On peut pas dire autre chose. C'était le plus fort aujourd'hui, incontestablement.
Ouais, Peter Sagan, presque insolent de facilité, mais pas arrogant. Pas arrogant parce qu'il
nous a pas fait le coq, il nous a pas fait de signe aujourd'hui.
Il n'a rien fait, il n'a pas donné de manifestation de joie extravagante. Il a simplement parfaitement joué tactiquement.
Pierre-Yves Leroux est derrière la ligne d'arrivée. Une petite photo, Pierre-Yves, avec tout ce qui s'est passé sur ce final incroyable.
Je suis très loin de la ligne, mon cher Christophe, pour tout te dire. Parce que j'ai voulu suivre Julien Alaphilippe, qui est passé le premier, évidemment, puisque le vainqueur, dans ce cas-là, on l'arrête pour aller au protocole. Et il a tracé directement Julien Alaphilippe vers son bus. Les bus sont très très loin. Et on l'a vu évidemment très déçu. Il n'a pas voulu s'arrêter. On a vu Romain Bardet aussi plutôt bien placé. Thibaut Pinot également. Donc des garçons qui n'ont pas perdu trop de temps aujourd'hui.
On souffle. Ouf, c'est difficile. Hein. C'est un sacré sprint évidemment.
Oui, parce qu'ils sont très très loin aujourd'hui.
Ouais.
Mais bon, bien. Vous allez avoir quelques réactions dans un instant.
Très bien. Reprends ton souffle. Tranquillou, on a le temps. On rappelle les classements et la victoire donc de Peter Sagan qui s'impose ici à Cherbourg. Est-ce qu'il y a un changement de maillot, Fred? Ça, on n'a pas encore la confirmation.
Ah oui, Peter, doute, hein, Peter Sagan devient maillot jaune.
Voilà. Peter Sagan, maillot jaune. Voilà,
bien sûr, pour la première fois de sa carrière.
Puisqu'il était deuxième au classement général, troisième ce matin. Et qu'il
troisième,
va donc,
quittait le deuxième derrière Cavendish ce matin. Eh bien, c'était annoncé. Le scénario arrivé de sprinter d'hier à Utah Beach ne se reproduirait pas aujourd'hui. Ce sont bel et bien les punchers qui s'en sont donnés à cœur joie. Longtemps, on a cru que l'échappée du jour, composée notamment de l'Allemand Paul Voss, de l'Italien Benedetti et du talentueux Belge Stuyven irait au bout. Stuyven a fait de la résistance jusqu'à la flamme rouge, mais dans le final, les punchers bien emmenés par toutes leurs équipes, qu'elles s'appellent Tinkoff, qu'elles s'appellent BMC, qu'elles s'appellent Lotto Soudal pour Tony Galopin ou Etix pour Julien Alaphilippe, ont fait le boulot et ont déposé vraiment dans la côte de la glacerie leur leader pour qu'ils aillent s'expliquer. Victoire donc ici à Cherbourg de Peter Sagan, le champion du monde, maillot arc-en-ciel sur les épaules, devant un Julien Alaphilippe qui n'a pas démérité. Valverde est quatrième, Dan Martin cinquième, Michael Matthews cinquième et Tony Galopin est septième. On reviendra sur la performance de Julien Alaphilippe qui a été battu de très peu par un Peter Sagan tout en contrôle.
On va écouter Peter Sagan, justement le champion du monde vainqueur d'étape ici à Cherbourg.
I'm very surprised I won because I was thinking in the front it's
je suis très surpris
on a plus le son de
finish first, and then I didn't know that. And just I am here, and everybody talking about I won. Then I'm very surprised. I'm very happy. And then make a very big job. Very good work, and Roman Kreuziger, he helped me a lot.
Voilà,
the last
Peter
climb,
Sagan, on
it was unbelievable. He pulled all the climb until
le champion du monde.
500 meters, and then it was just on my legs, and everybody just came in the front after I start the sprint, and when I see that I know somebody starts. Alaphilippe was very close to
j'ai
win,
lancé le sprint de loin, mais c'était un peu loin. J'ai pris le commandement à 500 mètres de la ligne d'arrivée.
The other good news is maybe a surprise yellow jersey for you.
M'ont fait mal. J'ai laissé Alaphilippe lancer.
Yeah, it's very nice. First time in my career and it's unbelievable.
C'est incroyable, c'est la première fois wearing, very nice dans ma carrière.
I'm very happy for this.
Je serai en jaune ce soir.
Yeah.
Je porte déjà un super
first
beau
time
maillot,
is also something special.
Mais ce maillot jaune, c'est évidemment tout un symbole et c'est quelque chose de très spécial pour moi.
Et oui, il va changer de maillot. Nous n'aurons plus de maillot arc-en-ciel demain sur les routes du Tour pour la troisième étape, puisque Peter Sagan est le nouveau leader de ce Tour de France, avec un petit Français, justement, en deuxième position, Julien Alaphilippe, deuxième. C'est un peu le poulie d'or de cette étape. Julien Alaphilippe, deuxième de l'étape et deuxième au classement général. Cyril, il n'a rien à se reprocher, Julien Alaphilippe, sur le final de cette étape. Il a tout donné, mais Peter Sagan est encore une dent au-dessus de lui.
Oui, non, il n'a absolument rien à se reprocher. battu par Peter Sagan, qui est incontestablement l'homme le plus fort dans ce type d'arrivée, qui est capable de gagner des sprints sur le plat, sur les montées à peu de pourcentage, enfin, sur les faux plats, dirons-nous. Et puis, eh bien, il est capable aussi de s'imposer lorsqu'il y a énormément de pourcentage, comme c'était le cas aujourd'hui. Rappelez-vous de quelle manière il a été sacré champion du monde sur un circuit où il y avait justement deux côtes dans le final à fort pourcentage, dont la première d'ailleurs avec des pavés. Il est sorti quand il a voulu et il est devenu champion du monde. Il a refait le même numéro aujourd'hui. Rien à dire. Alaphilippe ne peut que se féliciter d'avoir réussi à faire deuxième. Il ne fait pas de faute dans le sprint. Il a seulement un coureur qui est plus puissant que lui, oui, et qui a une meilleure giclette sur ce type d'arrivée.
Pierre-Yves Leroux derrière la ligne d'arrivée qui a une info à nous donner. Pierre-Yves.
Oui, l'information c'est que je suis allé jusqu'au bout, au bout, au dernier bus. Les Quick-Step étaient là pour qu'on m'apprenne que Julien Alaphilippe était au podium puisqu'il est maillot blanc.
Oui, il est maillot blanc, mais il est surtout en pleurs, Julien Alaphilippe, lui qui a terminé deuxième derrière Valverde à la Flèche Wallonne cette année, l'année dernière également. Hyper déçu, Julien Alaphilippe. C'est une information de Yann Pécheral derrière la ligne d'arrivée. Il est au contrôle antidopage, Julien, avant de monter au podium, endosser le maillot blanc. Énorme déception pour ce jeune Français de 23 ans, hyper bon puncheur de l'équipe Etix Quickstep, vainqueur du Tour de Californie, on le rappelle, en début d'année. Alaphilippe, deuxième et très déçu derrière Peter Sagan. Et
voilà, Julien Alaphilippe qui aura un maigre lot de consolation puisque demain il portera le maillot blanc de leader du classement des jeunes de ce Tour de France et non pas le maillot jaune qui va quitter les épaules de Cavendish pour celle de Peter Sagan qui lui va abandonner son maillot arc-en-ciel pour mieux le retrouver sans doute dans quelques jours. 17h28, vous êtes sur RMC. On vous rappelle donc la victoire de Peter Sagan qui fait coup double, victoire d'étape et maillot jaune pour le champion du monde. A tout de suite pour la fin de l'Intégrale Tour.
RMC Intégrale Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégrale Tour en direct de Cherbourg au terme de la deuxième étape du Tour de France, remportée il y a quelques minutes par le champion du monde Peter Sagan, qui fait coup double cet après-midi puisqu'il remporte non seulement l'étape mais qu'il va en plus revêtir le maillot jaune de leader de ce Tour de France. Il y a des dégâts, on a parlé tout à l'heure d'Alberto Contador, mais il y a également quelques Français et quelques favoris pour le classement général qui ont pris quelques éclats. Pierre-Yves Leroux justement est avec Thibaut Pinot qui est arrivé avec un retard de 11 secondes.
Exactement, Thibaut qui descend à l'instant des rouleaux pour se décontracter un petit peu. Comment ça s'est passé, Thibaut, aujourd'hui?
Ça s'est bien passé, c'était une étape encore assez redoutée parce qu'il y a du vent, il y a plu, donc un final qui était explosif, donc voilà, c'était compliqué aujourd'hui, mais ça s'est bien passé au final.
Il faut être très attentif comme sur toutes ces premières étapes là.
Ouais, il faut être attentif, il faut faire attention, voilà, nous c'est sûr qu'on... On reste vigilant, donc voilà, c'est passé aujourd'hui et on espère que ça va encore passer les prochains jours.
11 petites secondes de perdu, là, c'est ce qu'on me dit à l'instant. Bon, c'est pas très important.
Non, c'est pas grand chose. Quand il y a des coureurs qui ont déjà perdu beaucoup de temps, donc voilà, pour moi, je suis 11 secondes, je suis satisfait au final.
Le programme de ce soir, c'est le match de foot, tranquille?
Ouais, on va essayer de récupérer et puis se mettre devant le match de foot. Ouais.
Merci Thibaut. Bonne récupération alors que voilà, les autres coureurs de l'équipe FDJ sont là également pour faire tourner les jambes un petit peu. On en a l'habitude maintenant sur les rouleaux de cette image pour se décontracter. Il y a là Steve Morabito par exemple et puis quelques coureurs qui arrivent seulement à leur bus. Il y a eu quelques écarts aujourd'hui. Cette étape a été compliquée. Est-ce que vous voulez que j'avance tranquillement vers un certain Marc Madio?
Mais bien sûr. Et oui, qui sera le régional de l'étape demain.
Marc qui sera là. Alors, je vois qu'il commence une conversation. Je demande si on peut l'interrompre un instant. Marc, on était à l'instant avec Thibaut. Voilà, c'est plutôt une journée qui se passe bien, mais il y a 11 petites secondes à l'arrivée de retard. C'est pas très grave.
11 secondes, ils mettent des temps?
Apparemment, oui. 11 petites secondes, effectivement, Marc.
Bah, je sais pas. Il y a eu un qui a dû se relever un peu trop vite dans le groupe, parce que quand on voit les images, on a l'impression que tout le monde passe. Ils sont combien dans le même temps?
Alors, on va demander à Christophe Cessieux.
Sont 26.
Ils sont 26 dans le même temps.
D'accord, bon.
Petite déception, finalement.
Non. Si on est qu'à 10 secondes du maillot jaune à Paris, ça ira.
Ça serait une bonne nouvelle, effectivement. Il faut être très attentif en ce moment sur ces premières journées. On donne beaucoup de conseils aussi dans les oreillettes. Les directeurs sportifs essayent de surveiller ce qui se passe. Ils ont observé ces parcours.
Bah, Yvon est venu faire les reconnaissances en voiture il y a une quinzaine de jours. Et après, nous, on est avec une voiture à l'avant. On redonne encore des renseignements supplémentaires On essaie de donner le maximum d'infos aux coureurs. Il faut essayer surtout de les rassurer. Il ne faut pas non plus abreuver les gens de trop de... d'incidents de parcours ou de risques d'incidents de parcours, parce qu'après on rentre dans un stress négatif. Donc il faut ce qu'il faut, quand il faut, où il faut, et puis après le destin fait le reste. Mais je pense que Porte avait toutes les infos, puis aujourd'hui il perd beaucoup de temps avec la crevaison. Donc vous voyez, il faut être objectif quant à tout ça.
Le programme est simple désormais, le match de foot tranquillement ce soir après les massages, et puis demain le retour au pays avec l'étape en Mayenne et Renazé notamment.
Oui, on va passer en Mayenne, mais ce ne sera pas forcément de tout repos. Il peut y avoir du vent, les conditions peuvent être difficiles, même s'il fait toujours très beau en Mayenne d'une manière générale. C'est bien connu, tout le monde le sait, tout le monde doit aller en vacances là-bas d'ailleurs. Mais il faut toujours faire attention sur le tour, c'est au moment où on pense que c'est le moins dangereux qui finit toujours par se passer quelque chose. Donc il faut être concentré quoi sur ce qu'on fait.
J'en ai entendu certains rire là sur la météo en Mayenne, hein. Faut pas leur en vouloir.
Non, mais ils sont invités quand ils veulent et ils savent très bien qu'il fait très très beau là-bas.
Merci beaucoup Marc, bonne soirée avec des coureurs, notamment Thibaut Pinot évidemment et Arthur Vichot, qui seront devant la télé. Ce sont des fans de foot et ils vont aller voir ce match entre la France et l'Islande évidemment. Est-ce que vous voulez, juste pour finir, un petit mot de Georges Quirino?
Peut-être pour donner des nouvelles d'Alberto Contador.
Oui, bien sûr.
On a croisé juste après la ligne d'arrivée, qui était très touché, qui nous a dit qu'il avait effectivement tapé au même endroit, qu'il avait des douleurs un petit peu partout. On a parlé surtout avec Sean Yates, le directeur sportif de cette équipe Tinkoff Saxo, qui savait pas trop quel sentiment avoir. Il dit on sait pas trop si on doit être content pour Peter Sagan et le maillot jaune et la victoire d'étape, ou si on doit être triste pour ce qui est arrivé à Alberto pour le classement général. Donc c'est une ambiance un peu particulière là chez Tinkoff. Mmh. C'est plutôt les visages qui sont plutôt graves, on va dire, après ce qui est arrivé à Alberto Contador. On voit le frère d'Alberto, Fran, qui est resté dans la voiture là, qui pour l'instant est un peu touché visiblement par ce qui est arrivé à son frère.
Mais ça n'a pas l'air en tous les cas de toucher Monsieur Tinkoff qu'on a vu tout à l'heure. Il était fou de joie après la victoire de Peter Sagan. Il est venu faire le pitre devant les caméras de télévision. Alberto Contador qui se classe 61e de l'étape avec un retard de 48 secondes. Cyril, Marc a eu l'air surpris d'apprendre que on avait l'arrivée de Thibaut Pinot comptabilisé, voilà, 10 secondes de retard pour Thibaut Pinot, alors que pour Marc ils étaient arrivés tous dans le même temps, mais il y a sans doute eu un tout petit écart. Et comment ça se décide? C'est les commissaires qui décident, et qui en fonction de ce qui se passe, il y a un tout petit écart.
Les commissaires, c'est le film de l'arrivée, ouais. Et pour qu'il y ait un temps qui soit comptabilisé, il faut qu'entre deux coureurs il y ait une seconde pleine. C'est-à-dire que, imaginons que le dixième arrive à 5 secondes et 4 dixièmes, si le coureur suivant arrive à 6 secondes et 4 dixième, il y a une seconde entre les deux, donc le temps est pris, mais non pas sur celui qui est passé devant, sur le premier. Donc ce qui veut dire que quand vous perdez, lorsque vous avez un trou qui est exactement de une seconde pleine, eh bien vous perdez autant de temps sur le groupe qui est devant vous par rapport à celui qui est le premier du groupe. Donc ça fait 10 secondes parce que vous avez 25 coureurs qui sont roue dans roue, vous avez une seconde, donc c'est sur les 25, le premier des 25 coureurs.
D'accord, donc là, bah, il y a eu un petit,
eh ben là,
un
il
petit
fallait,
problème. Pour,
il fallait que Thibaut fasse en sorte qu'il n'y ait que 0,9 secondes, et là il était dans le même temps que les coureurs qui le précédaient.
Voilà, Thibaut Pinot qui est arrivé dans un groupe emmené par Nibali, par Reichenbach et par Mathias Franck, qui était juste devant eux, donc crédité d'un retard de 10 à 11 secondes. Bon, c'est pas rédhibitoire évidemment,
mais c'est toujours,
mais
10
c'est toujours 10 secondes, hein, et parce que Quintana lui n'a pas perdu les 10 secondes aujourd'hui, parce que Chris Froome n'a pas perdu les 10 secondes aujourd'hui, et la plupart des autres non plus. Oui, bah vas-y, donne la liste Cyril, puisque tu as vu que
oui, donc, il y a d'autres coureurs, d'autres leaders du classement général qui ont lâché des plumes aujourd'hui.
Oui, mais par Froome, Haru, Quintana, Pierre Roland, Bardet sont à 14 secondes, donc ils finissent dans le groupe qui est à 4 secondes de la tête, non même, oui, 4 secondes, puisqu'il y avait les 10 secondes de bonification, et puis après on a Nibali, Pinot et bien sûr bien d'autres.
Voilà Fred, on va quand même rappeler tout ça, rappeler les classements, le classement de l'étape, classement général évidemment, parce que il a bougé, tout a bougé cet après-midi ici à Cherbourg, alors que pendant très très longtemps, on a bien cru que Steven le Belge allait remporter l'étape et allait également revêtir le maillot jaune, mais il s'est fait croquer, avaler et digérer par le peloton à quelques encablures de l'arrivée. arrivée.
Jasper Stuyven, 24 ans, un Belge de l'équipe Trek qui a failli voler la vedette aux grandes stars du cyclisme mondial. Stuyven qui en ce moment même, lui le solide gabarit belge de l'équipe Trek, est en train d'endosser le maillot à poids de meilleur grimpeur.
Il n'a pas vraiment le sourire.
Il n'a pas le sourire, ni le gabarit de grimpeur, mais au moins eh bien, il sera allé au bout de l'effort. Quel talent celui-ci qui a remporté Kurne-Bruxelles-Kurne en début d'année. Il aurait pu être le grand vainqueur du jour, celui qui aurait fait coup double, étape et maillot jaune sur cette deuxième étape du Tour, arrivé en haut de la côte de la Glacerie aujourd'hui, ici à Cherbourg, dans la grisaille et dans le froid humide de la Normandie. Mais le vainqueur du jour, le grand vainqueur du jour, celui qui fait pour de bons coups doubles, c'est le grandissime favori Peter Sagan, champion du monde de son état, et qui dans la montée finale a joué avec Julien Alaphilippe, le français, pour le devancer finalement sur la ligne d'arrivée au combat. Peter Sagan, 26 ans, qui remporte sa quatrième étape sur le Tour de France, lui qui avait cumulé les deuxièmes places l'an passé, on s'en souvient, sur le Tour de France, 5 deuxièmes places l'an passé sans une seule victoire d'étape, lui qui a cumulé également les maillots verts, 4 victoires au classement par points sur le Tour de France. Et bien Peter Sagan, la superstar du cyclisme mondial actuel, capable de faire le show sur le vélo et hors du vélo, l'homme aux cheveux longs, l'homme qui court désormais avec un chignon sous son casque, s'est imposé devant Julien Alaphilippe, le français de l'équipe Etix Quickstep, et Alejandro Valverde. Dan Martin est quatrième, Michael Matthews est cinquième, Thibaut Galopin septième. Au classement général, Peter Sagan est en jaune, 8 secondes devant Alaphilippe, 10 secondes devant Valverde. Sachez que Thibaut Pinot est à 30 secondes, Contador à 48 secondes. Il a souffert l'Espagnol aujourd'hui et il a lâché du temps dans la montée finale. Autre perdant du jour, Richie Porte, retardé par une crevaison dans le final, qui est à 1,45 de Peter Sagan.
Voilà, alors qu'à l'instant même, Julien Alaphilippe, le malheureux, l'un des autres malheureux du jour, qui a été battu par Peter Sagan et qui était en pleurs tout à l'heure, nous disait Yann Pécheral, n'a pas retrouvé un grand sourire, même s'il y a tout de même un sourire timide sur son visage, puisqu'il s'empare du maillot jaune, du maillot blanc, de meilleur jeune de ce Tour de France, et qu'il est deuxième au général ce soir, seulement devancé par Peter Sagan. On continue évidemment de débriefer cette deuxième étape dans la suite de l'Intégral Tour jusqu'à 18h, et puis à partir des 18h évidemment, vous le savez, l'Intégral Euro 2016 il sera 18h, donc à 3h du coup d'envoi du match entre la France et l'Islande. A tout de suite sur RMC en direct de Cherbourg.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'étape du Tour de France est achevée tout à l'heure à Cherbourg, au sommet de la côte de la Glacerie, où c'est donc Peter Sagan qui s'est imposé, le champion du monde slovaque, qui a oublié la malchance qu'il avait entourée tout au long de l'édition précédente du Tour de France. Fred le rappelait tout à l'heure, 5 deuxième places l'an dernier, et là eh bien dès la deuxième étape il remporte l'étape et en plus revêt le maillot jaune de leader. On va évidemment débriefer cette étape jusqu'à 18h avec Fred et avec Cyril. Peter Sagan, c'est vrai que l'année dernière on en avait fait le nouveau poulie d'or du Tour de France, Cyril, mais depuis il n'en finit plus de gagner. Voilà, c'est incroyable, il a vaincu la malédiction. Il faut dire qu'il a vraiment beaucoup de talent, ce garçon. Hein.
Ah, du talent, il en a, et vous savez, il a déjà remporté ses 3 fois le classement par points du
Tour. 4 fois.
4 fois le classement par points du Tour de France. Donc ça classe un homme, ça classe ses qualités de sprinter, mais également tout terrain, puisque pour avoir le maillot vert, il faut aussi passer au moins, au minimum, la moyenne montagne. L'an dernier, il avait une non-réussite. Il se faisait à chaque fois coiffer sur la ligne. Et puis, il s'est débloqué un petit peu au championnat du monde. Et depuis ce championnat du monde, eh bien, il n'en finit plus de gagner. Ce petit manque de confiance qui lui avait manqué dans le Tour l'an dernier pour accrocher au minimum une victoire, eh bien, cette confiance, elle est revenue. Et j'ai le sentiment aussi qu'il a pris un tout petit cran, un peu plus de confiance. Il est un peu plus serein et ça fait la différence.
Et quelle différence, hein, Fred?
Se balade Peter Sagan, il vit sa petite vie dans le monde du vélo.
Il promène son vélo.
Au sommet du cyclisme mondial, c'est un pilote, comme disent les coureurs. Quand on pilote son vélo, ça veut dire qu'on se permet presque de pas pédaler. On a juste à poser la roue avant, à positionner son corps sur son vélo pour l'amener exactement où on veut, comme on veut, quand on veut. Et bien c'est cela qui Sagan depuis qu'il est devenu champion du monde à Richmond aux USA en septembre dernier. Peter Sagan qui effectivement est entré dans une nouvelle dimension. C'est une superstar du cyclisme mondial et c'est une superstar du sport mondial parce qu'au-delà du coureur cycliste, il y a l'homme, il y a la gueule de Sagan, ses yeux bleu acier qui vous pénètrent dès qu'il regarde, dès qu'il vous regarde. C'est longtemps passé Peter Sagan pour il est longtemps passé pour le Forrest Gump du vélo, capable de tout faire sur un vélo, capable même de mimer Forrest Gump en train de franchir la ligne lors d'une de ses victoires sur le Tour de France. C'était il y a 3 ans me semble-t-il, c'était même il y a 4 ans en 2012. Peter Sagan qui est devenu un super produit marketing, le meilleur emblème, le meilleur porte-drapeau du cyclisme mondial, champion du monde et maillot jaune ce soir devant le jeune Julien Alaphilippe, on le rappelle, grand déçu du jour.
Voilà, Peter Sagan, premier maillot jaune de sa carrière pour lui aussi, comme c'était le cas pour Marc Cavendish.
C'est le tour des premières.
Va-t-il pouvoir le conserver longtemps? On en parlera dans quelques instants. Tiens, aujourd'hui, nous vous offrons un pack de 2 places VIP pour assister à la 7e étape du Tour de France. Ce sera entre l'île Jourdain et le lac de Payol, une étape qui aura lieu le vendredi 8 juillet prochain, au programme accès à l'espace VIP, déjeuner, puis évidemment le spectacle du passage de la caravane et des coureurs sur la ligne d'arrivée. Attention, vous devez être majeur pour y accéder. Pour jouer, c'est maintenant au 7-32-16. Il suffit d'envoyer le mot tour. Bonne chance.
Suivez le Tour de France avec les pneus Kléber, fournisseur officiel du Tour de France.
La première donc pour Peter Sagan, avant d'aborder le cas Julien Alaphilippe, Cyril, un mot. Jusqu'où peut-il emmener ce maillot jaune? On a l'impression qu'il peut le balader une bonne semaine. Hein, peut-être jusqu'à
au minimum jusqu'à Lyon. Lorsqu'on va attaquer
la 5e étape centrale,
ouais. qui est la 5e étape, passera-t-il bien l'ascension ou pas? Je pense que lorsqu'il est bien motivé, bien fâché et accroché à un objectif, je crois qu'il peut-être passer à ce moment-là, il le perdra dans les Pyrénées.
Alors qu'est-ce qui fait la différence, Cyril, entre un grimpeur de grand col et un puncher comme Sagan, qui est à l'aise lorsque la route s'élève, ça a été le cas tout à l'heure dans la côte de la Glacerie, mais qui en revanche ne passe pas la haute montagne? C'est quoi la différence?
Ah, la différence c'est quelques kilos. Parce que
quelques kilos, on peut les amener sur 2-3 kilomètres, mais pas au-delà, c'est ça.
Voilà, puis on a une puissance musculaire, puisqu'il est aussi sprinter, rappelons-le. Hein, il va dans certains sprints, il est capable. Hier, il fait 3e de l'étape. Hein.
Battu seulement par Kittel et Cavendish.
Donc, il va presque aussi vite qu'eux. Donc, ça veut dire qu'il a une masse musculaire très dense. Donc, ce poids lui permet, sur des arrivées comme celle d'aujourd'hui, de faire la différence, de passer des difficultés de 3, 4 ou 5 kilomètres s'il n'y a pas trop de pourcentage. Sur sa classe naturelle, il peut peut-être aller un petit peu plus loin, mais il est bien évident que par rapport au grimpeur, les 5 ou 6 kilos qu'il a, au bout d'un moment, vont peser trop lourd, c'est le moins qu'on puisse dire, vont peser trop lourd, il va être obligé de décrocher.
Voilà, donc il ne décrochera jamais une victoire finale dans le Tour de France, ça, qu'on se le
on avait d'ailleurs on avait également le même problème avec un coureur comme Cancellara par exemple.
Exactement. Fred, on va maintenant évoquer le cas Julien Alaphilippe, deuxième donc de l'étape, deuxième au classement général. Lui aussi, c'est un sacré puncher. C'est un garçon qu'on a appris à découvrir l'année dernière où il s'était illustré dans les classiques. Il s'est à nouveau illustré dans les classiques cette année. Puis il a remporté le Tour de Californie. Et puis il a montré qu'il avait également des aptitudes en haute montagne avec le Dauphiné il y a quelques semaines. Ce garçon lui aussi a beaucoup beaucoup de talent et c'est un jeune, très jeune coureur.
Oui, Julien Alaphilippe, 23 ans qui a explosé à la face des adeptes du cyclisme international l'an passé. C'était au sommet du mur de Huy sur la Flèche Wallonne. Il avait terminé deuxième derrière l'ultra spécialiste Alejandro Valverde. Ce jour-là, il était aux anges, Julien Alaphilippe. Il se surprenait lui-même et tout le monde se disait waouh, quelle surprise, il a fait peut-être le coup de sa carrière ou en tout cas Vegas en annonce de Bell. Il a confirmé au printemps dernier avec le même scénario, deuxième place après avoir connu un peu de difficultés cet hiver et en début de saison parce qu'il a été, semble-t-il, victime d'une mononucléose. Il a mis en route, comme disent les coureurs, un peu plus tard que la concurrence, mais tout de même sur sa classe et avec un peu moins de fond, comme l'on dit dans le peloton, il a réussi à reprendre une deuxième place derrière Valverde sur la Flèche Wallonne. Là, il était un peu moins heureux, évidemment. Ça commence à faire beaucoup de faire deux fois deuxième. Il s'est refait avec, il s'est refait le moral, en tout cas, avec une victoire sur le Tour de Californie, victoire sur l'étape Rennes en haute montagne, comme l'an passé sur le Tour de Californie. Et puis là, eh bien, il fallait assumer, notamment sur le Dauphiné, ce qu'il a fait avec le maillot de meilleur blanc du meilleur jeune sur le Critérium du Dauphiné. Autant de résultats qui lui ont apporté une place, une sélection dans l'Armada Ethics Quickstep sur ce Tour de France. Il a quand même pris la place de coureurs comme Trentin ou comme Stibar, des coureurs qui ont remporté des étapes au sein de la formation Ethics Quickstep. Ça veut dire que Patrick Lefebvre lui fait entièrement confiance. On a bien cru aujourd'hui qu'il allait pouvoir damer le pion aux principaux favoris punchers, qu'ils s'appellent Valverde, Michael Matthews ou Peter Sagan. Il y a cru sans doute, mais il a été, je pense, berné, bluffé en tout cas par Peter Sagan. Sagan qui était en tête aux 300 mètres, 200 mètres de la ligne d'arrivée, qui s'est écarté après avoir lancé le sprint, comme s'il coinçait Peter Sagan, le champion du monde. Il s'est positionné, Sagan, dans la roue d'Alaphilippe. Alaphilippe ne s'est pas fait prier, il a accéléré, il a donné tout ce qu'il a pu, mais sauf que à 50 mètres de la ligne d'arrivée, Alaphilippe a payé peut-être son inexpérience, sa trop grande fraîcheur. Sagan est repassé devant. Il a de quoi être déçu, mais tout de même, quelle promesse pour l'avenir.
Alors, jusqu'où peut-il aller ce Julien Alaphilippe? C'est la nouvelle petite pépite du cyclisme français, Cyril. Un garçon dont Fred a rappelé le parcours, qui vraiment s'est accéléré depuis l'année dernière. Et on a l'impression qu'il en a encore sous la pédale. Et on espère, évidemment, on l'espère.
Il en a encore sous la pédale. On ne réalise pas les exploits et les performances qu'il fait depuis deux ans. Mais on le connaissait bien avant. N'oublions pas qu'il a déjà été
le grand public un peu moins. Hein, c'est vrai
le grand public,
spécialiste évidemment depuis l'an dernier, mais
parce qu'il s'était exilé aussi relativement tôt en terre flamande. Mais c'est un coureur qui a une chance extraordinaire, c'est qu'il ne pèse pas lourd, et on l'a pu le voir effectivement en Californie puisqu'il l'emporte, mais également sur le Critérium du Dauphiné. C'est un coureur qui, s'il prend conscience véritablement de son potentiel en haute montagne, qui peut jouer dans un top 10 voire un top 5 du Tour de France. On aura la réponse, je pense, à la sortie des Pyrénées.
Eh bien, on espère évidemment que ces prédictions seront bonnes et qu'effectivement...
Je l'avais déjà annoncé l'an dernier.
C'est vrai, tu en avais parlé l'an dernier de ce Julien Alaphilippe, jeune coureur français de la formation Ethics Quickstep, qui est donc deuxième au général ce soir. Fred, un tout petit mot des grands battus du jour. Il nous reste quelques secondes seulement, 30 secondes. Je sais pas si tu sais faire 30 secondes, on va essayer de voir.
Il fera pas.
Je sais faire. Alberto Contador a payé la note au lendemain de sa chute en direction du Tabitch hier. Il est désormais à 48 secondes, ça veut dire à 34 secondes des principaux favoris pour la victoire finale. Contador qui a marqué le pas et qui peine. Richie Porte, l'Australien de la BMC, leader de l'équipe américaine, a lui crevé à 5 km de l'arrivée et accusé le coup. 1:45 de retard pour Richie Porte derrière le maillot jaune Peter Sagan.
Voilà, c'est presque ça, 30 secondes. Bravo Fred, merci en tous les cas. On va tout de suite retrouver Frédéric Zarmati qui va nous récapituler ce qui s'est passé aujourd'hui sur les champs de course, notamment sur celui de Saint-Cloud. Salut Fred.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Le quintet aujourd'hui se disputait sur l'hippodrome de Saint-Cloud et la victoire pour le 14 Coisa Boa qui s'impose au terme d'une superbe fin de course. C'est un concurrent qui ne devrait pas tarder peut-être à remporter un prochain quintet. Il va falloir voir comment le handicapeur va le traiter. La deuxième place pour le favori d'épreuve, le 15 Iron Spirit, qui a pris l'avantage environ à 1000 lignes droites, mais qui n'a pu résister au lauréat. Troisième place pour le 6 Foley, qui se comporte très bien. La quatrième pour le numéro 16 Evensong, qui a terminé à la vitesse du vent à la corde. Et là aussi, je vous invite à noter ce concurrent sur vos tablettes. Et la cinquième place pour le 10 Bandaneta. 14, 15, 6, 16 et 10 rapporte dans l'ordre et pour 2 euros 266 112 euros. Demain, on va de nouveau galoper du côté de Maison Lafitte avec là aussi un quintet assez ouvert. Et je vous proposerai de prendre peut-être en base le numéro 3, Babel's House Book, qui ne devrait pas tarder à remporter une épreuve de ce genre. Mais c'est un quintet très, très ouvert. Et puis sur Aval, numéro 16, qui me plaît bien comme outsider, car si elle monte de catégorie, elle vient d'ouvrir son palmarès avec un certain brio. Et je la pense capable, à ce point-là, de jouer un rôle intéressant. Et puis si vous voulez d'autres infos et des paris, tout cela est disponible, comme d'habitude, sur le site d'rmcsport.fr.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Voilà, 17h57, nous on va vous quitter, on va reprendre nos voitures et vite filer à l'hôtel pour voir le match de l'équipe de France, évidemment, puisque ça se rapproche, Loïc Braillet,
oui,
ça se rapproche.
Mais oui, traînez pas, messieurs, parce que vous allez rater, c'est dans 3 heures désormais, ce quart de finale de l'équipe de France face à l'Islande au Stade de France, avant-match complet dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à 1h du matin pour débriefer la rencontre, l'avant-match dans quelques instants, vous au 32-16 et les réactions sur le hashtag RMC Live. A tout de suite après les infos de 18h.